Théoriquement, le genou peut être considéré comme une entité fonctionnelle abstraite. Mais concrètement, il s'agit d'une articulation relais de la chaîne articulaire du membre inférieur qui participe à l'élaboration du déplacement dans l'espace de l'individu et à son équilibre gravitationnel pendant les 10 déplacements. Cela sous-entend qu'il va être soumis à des forces contraignantes extérieures au genou lui-même qui vont compromettre son équilibre biomécanique intrinsèque. Les stabilisateurs statiques et dynamiques vont devoir contrer ces forces perturbatrices en verrouillant le genou en position de stabilité. Ils vont indirectement jouer le rôle d'amortisseur d'énergie. En extension, le genou est en position de stabilité statique, c'est-à-dire que le verrouillage est assuré par le carrossage des surfaces articulaires en position de congruence maximale et le système stabilisateur statique. Dans cette position, le potentiel d'amortissement énergétique est faible, puisqu'uniquement fonction des réserves d'élasticité des structures capsulo-ligamentaires. Le genou est donc très vulnérable face aux contraintes extérieures. L'énergie perturbatrice non maîtrisable va entraîner des lésions des structures stabilisatrices qui lui sont directement opposées, correspondant souvent à des lésions isolées de celles des freins primaires. À la lumière des connaissances acquises, nous pouvons déduire que dans le cas présent, le mécanisme lésionnel d'hyperextension statique, c'est-à-dire pied fixé au sol, va entraîner une lésion isolée du ligament croisé postérieur par déplacement postérieur du tibia sous le fémur. Selon le même principe, l'hyperextension dynamique par contraction inappropriée du quadriceps, pied sans appui au sol, va occasionner une lésion isolée du ligament croisé antérieur, frein primaire du déplacement antérieur du tibia, le ligament croisé antérieur venant se rompre sur le chevalet de l'échancrure intercondylienne. Genou en extension, l'hyperextension, statique ou dynamique, est de loin le mécanisme lésionnel le plus fréquent, alors que les entorses en valgus ou varus forcé, avec lésions isolées des structures internes ou externes, sont rares. La situation est toute différente lorsque le genou se trouve en flexion. Mais regardez plutôt. La flexion lève le verrouillage statique et libère la rotation. Rotation externe et valgus, de même que rotation interne et varus, se limitent mutuellement et verrouillent le genou sous le contrôle actif de la musculature. Contrairement au verrouillage statique, ce type de verrouillage dynamique est à haut potentiel amortisseur. Les muscles vont pouvoir amortir activement l'énergie traumatisante extérieure en adaptant la position de stabilité en valgus rotation externe ou varus rotation interne en fonction de la direction de la force perturbatrice. Les entorses du genou en flexion correspondent donc toujours au dépassement d'une position de stabilité extrême en valgus rotation externe ou varus rotation interne, réalisant des lésions pluriligamentaires par opposition aux lésions isolées des entorses en extension. Le valgus rotation externe est de loin le mécanisme lésionnel le plus fréquent. Si le valgus est le mouvement prédominant, les lésions débuteront au niveau du LLI, puis s'étendront au papi et au LCA. Si l'agent traumatisant en valgus poursuit son effet, le LCP peut même être touché. Si la rotation externe prédomine, la première structure lésée est le papi, puis le LLI et le LCA. Les lésions vont ensuite s'étendre au compartiment externe en lésant le papé. Le ligament croisé postérieur sert de pivot à la rotation et reste intact. Si les lésions du papé et du LCP sont rarement rencontrées dans ce type de mécanisme, l'association lésionnelle LLI-papi-LCA est très fréquente et réalise la classique triade ligamentaire interne. Selon le même principe, les lésions consécutives à un mécanisme de varus rotation interne vont débuter au niveau du papé et du LLE. Il s'ensuit un vissage excessif du pivot central en rotation interne, à l'origine d'une rupture du LCA, puis du LCP, et même du papi si le mécanisme poursuit son action. Parmi cette véritable mosaïque lésionnelle potentielle, l'association papé-LLE-LCA réalise la classique triade ligamentaire externe. La laxité articulaire est un phénomène physiologique exprimant la possibilité d'une mobilité réciproque entre les surfaces articulaires tibiales et fémorales. L'hyperlaxité correspond à une augmentation pathologique de la laxité de base, souvent conséquence d'une lésion ligamentaire. À chaque type de lésion correspond une hyperlaxité différente. La grande variété des lésions anatomiques est à l'origine d'une classification complexe des différents types d'hyperlaxité, dont nous ne retiendrons que les grands principes. Les lésions isolées du pivot central vont entraîner une hyperlaxité translatoire pure, c'est-à-dire un déplacement exagéré mais symétrique des deux plateaux tibiaux vers l'avant ou l'arrière selon le ligament lésé. Les lésions ont des structures ligamentaires périphériques, internes ou externes, avec pivot central intact, entraînent une hyperlaxité rotatoire pure, c'est-à-dire une hyperrotation interne ou externe, mais s'effectuant sur un axe de rotation intact. Finalement, les lésions complexes associant une atteinte du pivot central et une atteinte asymétrique des structures périphériques occasionnent une hyperlaxité mixte, une translation asymétrique des plateaux tibiaux et une rotation excentrique. L'hyperlaxité est l'expression statique d'une insuffisance fonctionnelle ligamentaire. Mais en dynamique articulaire, cette déficience peut souvent être compensée par les structures ligamentaires saines restantes, ainsi que par les forces de coaptation musculaire, l'hyperlaxité restant alors asymptomatique. Dans les cas de lésions ligamentaires majeures, ce mécanisme de compensation n'est plus suffisant. Le centre articulaire du genou est déstabilisé et le genou devient instable. L'instabilité est une entité bien distincte de l'hyperlaxité, en ce sens qu'elle est toujours mal tolérée et symptomatique, sous forme de dérobement ou de sensation de déboîtement. Si l'instabilité peut être présente d'emblée, elle peut aussi survenir secondairement, la surcharge fonctionnelle des ligaments sains restants induisant leur distension progressive et par là même compromettant peu à peu leur rôle stabilisateur. Le pronostic des hyperlaxités rotatoires est ainsi beaucoup plus sombre que celui des translatoires, puisque la surcharge fonctionnelle des éléments sains y est considérablement plus importante. De même, les hyperlaxités externes sont beaucoup moins bien supportées que celles internes, du fait de la stabilité intrinsèque moindre du compartiment externe. Le genu varum est également un facteur défavorable, puisqu'il s'accompagne d'une distension des formations ligamentaires externes, diminuant ainsi leur réserve fonctionnelle. Le genu recurvatum, en distendant les structures capsulo-ligamentaires postérieures ainsi que le LCA, est aussi un élément pronostique défavorable. Selon le même principe, on retrouve en clinique des tests statiques pour le diagnostic des hyperlaxités et dynamiques pour les instabilités. Dans le plan sagittal, les hyperlaxités sont mises en évidence par des manœuvres de tiroir. Le test est positif quand, par comparaison avec le genou sain, il existe un déplacement anormal du tibia par rapport au fémur. Effectué genou fléchi à 90 degrés, le tiroir antérieur direct, c'est-à-dire en rotation neutre, met sous tension d'abord le LCA, puis les structures périphériques internes et finalement externes. Une asymétrie de 3 à 5 mm signe donc une déchirure isolée du LCA. Une asymétrie de 5 à 10 mm, une lésion associée des structures internes ou externes. Si elle dépasse 10 mm, elle est révélatrice d'une atteinte du LCA et des deux points d'angle. Effectuée en rotation externe, la signification du tiroir est quelque peu différente. La rotation externe diminue la tension du LCA et des structures externes, alors qu'elle augmente celle du LLI et du papi. Le tiroir antérieur en rotation externe reflète donc surtout la laxité du compartiment interne. Une asymétrie de 5 à 13 mm signe une lésion isolée du LLI. 13 à 19 mm une lésion associée du papi, alors que si elle dépasse 19 mm, elle signe une atteinte supplémentaire du LCA. Selon le même principe, le tiroir antérieur en rotation interne met sous tension les ligaments croisés puis les structures périphériques externes. Une asymétrie de 5 à 13 mm signe une lésion isolée du LCA, alors que si elle dépasse 13 mm, elle dénote une lésion associée du papé. Ces manœuvres de tiroir peuvent être considérées comme des tests fiables pour le diagnostic des grandes hyperlaxités. Il n'en est pas de même en ce qui concerne celles de moindre importance. Effectué à 90 degrés de flexion, le testing entraîne souvent une contraction réflexe des ischio-jambiers qui attire le tibia vers l'arrière et peut ainsi masquer une hyperlaxité antérieure. De même, la surface articulaire postérieure des condyles est très convexe et lorsque les structures des points d'angle sont intactes, les ménisques agissent comme des cales très efficaces s'opposant au tiroir et pouvant également masquer une hyperlaxité antérieure. À 20 degrés de flexion, la force de traction des ischio-jambiers est annihilée, puisque perpendiculaire au tiroir antérieur. Et la surface articulaire des condyles, relativement plane, ne gêne plus le déplacement antérieur du tibia. Le tiroir antérieur direct effectué à 20 degrés de flexion, aussi appelé Lachman test, est ainsi beaucoup plus sensible et permet d'apprécier des déplacements antérieurs du tibia même de très faible amplitude. Il est le test le plus spécifique d'une lésion isolée du LCA. Le diagnostic des laxités postérieures s'effectue également à l'aide de manœuvres de tiroir, mais cette fois-ci postérieures. Leur signification se détermine selon le même principe que pour les tiroirs antérieurs. Deux autres tests statiques peuvent aider au diagnostic des hyperlaxités postérieures. Le test de Godfrey. Le patient est en décubitus dorsal, genou fléchi à 90 degrés, talon soutenu. Le test est positif lorsqu'on voit une chute en arrière de l'extrémité supérieure du tibia par rapport au côté sain. Pour terminer notre testing ligamentaire statique, il nous faut encore examiner la laxité latérale. Effectuées à 30 degrés de flexion, les manœuvres de varus valgus forcé testent spécifiquement les ligaments latéraux qui sont sous tension, alors que les points d'angle sont détendus. Genoux en extension, les mêmes tests, s'ils sont positifs, sont révélateurs d'une atteinte ligamentaire majeure avec lésion des points d'angle correspondants, voire du pivot central, dernier frein de la laxité frontale. Passons maintenant au testing dynamique, c'est-à-dire au diagnostic non plus des hyperlaxités, mais des instabilités. L'instabilité, antérieure ou postérieure, se recherche à l'aide des tests de ressaut. Le ressaut condylien antérieur, à lui seul, peut se tester de 10 manières différentes, selon Slocum, Lemaire et j'en passe. Comme illustration, j'ai choisi de vous présenter le pivot shift de McIntosh. On part jambes tendues. On effectue un discret mouvement de rotation interne et de valgus sur le tibia. On fléchit lentement le genou, et s'il est stable, le mouvement se déroule de façon tout à fait harmonieuse. Alors que s'il existe une instabilité antérieure, il se produit un ressaut caractéristique vers 30 degrés de flexion. Si les techniques de recherche varient, le principe physiopathologique de ces tests est toujours le même. S'il y a instabilité antérieure, le plateau tibial externe est subluxé antérieurement. La flexion progressive du genou s'accompagne d'un roulement du condyle sur le plateau tibial et vers 30 degrés de flexion se produit la réduction de la subluxation avec un ressaut caractéristique. Le test est alors positif. Ce test, spécifique pour le diagnostic de l'instabilité antéro-externe, est fiable à 98%. Pour le diagnostic de l'instabilité postérieure, les tests cliniques sont tout aussi nombreux. Pour illustration, le ressaut condylien inversé de Jacob. Le sujet est en décubitus dorsal, genou fléchi, rotation externe du tibia. S'il y a instabilité postérieure, le plateau tibial externe se subluxe ainsi postérieurement par simple effet de gravité. En appliquant un effet de valgus sur le tibia, l'extension progressive du genou s'accompagne d'un roulement du condyle sur le plateau tibial et vers 30 degrés de flexion se produit la réduction de la subluxation avec un ressaut caractéristique. Il s'agit encore d'un ressaut condylien, mais inversé, car on part de la position de subluxation postérieure vers une position de réduction. La fiabilité de ce test est comparable à celle du pivot shift antérieur.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Maire, qu'est-ce qui vous est arrivé?
J'ai fait une chute à moto hier soir.
Hier soir.
Si le testing ligamentaire reste l'étape capitale du bilan clinique, l'inspection et la palpation n'en restent pas moins des temps importants du statut.
D'accord. Puis ce matin, je pense que quand vous avez vous levé, c'est là que...
Ouais, c'était difficile pour appuyer la jambe et faire des mouvements.
C'est la première fois que ça vous arrive, vous n'avez jamais eu de problème avec ce genou?
Jamais auparavant.
Jamais rien du tout?
Non, jamais.
D'accord. Vous n'avez pas mal ailleurs, autrement c'est juste le genou
non,
qui vous...
Non, c'est vraiment le genou. Ouais.
D'accord. Vous avez mal partout, là, ce genou, ou bien...
Ouais, la douleur est assez diffuse. Hein.
Ouais.
Ainsi, la douleur à la palpation, associée à un hématome local, sont évocateurs de lésions des structures périphériques, internes ou externes, selon leur localisation.
Puis là, c'est quand on arrive par là que je pense... Là-dessus, ouais, ouais, désolé. Désolé. Côté, ça... Ouais. C'est vraiment là, hein. Ouais, bon, ok.
De même... Certains indices anamnestiques peuvent être révélateurs de lésions ligamentaires spécifiques.
Bonjour,
écoutez plus tôt.
Qu'est-ce qui vous arrive?
Ben, écoutez, je me suis tordu le genou hier pendant l'entraînement d'aïkido.
Ouais, d'accord. Première fois que ça vous arrive?
Ouais, c'est la première,
première fois. Vous n'avez pas tapé, c'est vraiment tordu le genou ou bien?
Ouais, je me suis tordu en tombant, quoi. C'était une chute.
D'accord. Il a enflé ou bien?
Ouais, il a enflé tout de suite après.
Tout de suite?
Ouais.
Et puis finir le match ou bien?
Non, j'ai pu rentrer chez moi.
Il a enflé ou bien?
Bah, non, hier ça allait, mais par contre ce matin il était enflé.
Ouais. Vous avez mal aussi?
Ouais.
L'épanchement intra-articulaire, dont le délai d'apparition est inférieur à 4 heures après le traumatisme, signe une hémarthrose et est donc fortement suspect d'une lésion du pivot central. D'apparition plus tardive, il reflète un désordre mécanique sans signification spécifique.
J'étais en train de skier, je suis tombée, j'ai entendu un crack dans le genou, puis après j'ai eu très très mal.
Ah, vous entendez un crack?
Le crack entendu lors du traumatisme est très suspect d'une lésion du LCA. Ainsi, les renseignements cliniques recueillis au cours de l'anamnèse et du status sont tout autant de reflets indirects de l'état des structures anatomiques sous-jacentes, et si le contact visuel direct avec ces structures n'est pas possible, les connaissances de biomécanique et cinématique que vous venez d'acquérir vous permettent de contourner le problème en vous donnant la clé indispensable pour interpréter ces éléments cliniques et en déduire les lésions anatomiques correspondantes. Le contrat est rempli. Le handicap visuel est surmonté, en théorie du moins, puisqu'en pratique, certaines difficultés supplémentaires peuvent survenir. La douleur entraîne une contracture musculaire réflexe qui peut rendre le testing ligamentaire impraticable, ou du moins ininterprétable. L'épanchement, par son effet pseudo-stabilisateur, peut masquer une laxité. La morphologie du patient ou son incompliance peuvent être des écueils insurmontables pour le clinicien. Il faut alors avoir recours à d'autres techniques d'investigation, telles l'IRM ou l'arthroscopie, par exemple. Mais là, nous débordons de notre sujet initial, et 45 minutes d'attention soutenue, c'est déjà beaucoup, même pour les téléspectateurs enthousiastes que vous êtes.